Ok.
Directeur Jules Ragnon Solide, vous venez d'entendre son OK parce que, eh oui, quand on ne me connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et je suis alors avec un type, alors je ne sais pas si c'est un type asymétrique, si c'est un type imprévisible, ou si sa création, parce que c'est un vrai créateur, alors attention, hein. Et puis alors, ce qu'il a créé, faut le faire, hein. Même moi, je n'aurais pas été capable. Mais imaginez le bonheur que je vais avoir, parce que j'accueille Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Alain.
Alors, je veux te remercier parce que juste avant, tu m'as demandé comment ça allait se passer. Alors, moi, je t'ai répondu simplement, je vais te laisser parler pendant 20 minutes. Donc, je te souhaite une bonne émission. Moi, je vais aller faire la sieste. Et puis,
je te remercie. Je
C'est ça, non, tu m'as dit. Tu voulais faire un monologue pour...
Non, pas trop. C'est...
Christophe, tu peux rendre service, s'il te plaît. Deux secondes, tu dis rien.
Oui.
Ah, mais on n'entend pas. Quel travaux derrière toi ? Christophe, ne dis jamais à Alain Moreno quand tu commences une interview insolite que...
Il y a des travaux. Voilà.
Puis-je me permettre de commencer ? Je vais te présenter juste, mais je vais te laisser te présenter surtout. Parce que je ne sais pas comment... Quand on t'appelle Christophe, c'est une chose. Mais tu as un nom prédestiné.
Alors, j'ai... mon vrai prénom et mon nom, c'est Christophe Abbé. Et ouais. Mon nom d'artiste, c'est CH Abbé. CH.AB.
D'accord.
C'est comme ça que je signe en fait mes sculptures et mes objets.
D'accord. Mais dis-moi, tu n'as rien à voir avec un AB.
Non, je n'ai rien à voir avec un AB. Je ne pense pas qu'il y en ait eu en fait dans ma famille, mais voilà, c'est mon nom. Et il vient du haut de la vallée de Chamonix, en fait, enfin, du bas de la vallée de Chamonix plutôt. En fait, c'est la région de Saint-Gervais-le-Fayet.
D'accord. Bien. Pour commencer, pour découvrir, tu es un artiste, tu es un créateur, tu es plein de choses, mais tu as eu une vie avant. Donc, première question, raconte-moi ta naissance, s'il te plaît.
Alors, ma naissance, je suis né à Paris, en fait, parce que mon père, en fait, faisait son service militaire à Paris, oui. Et ma mère était parisienne. Donc, en fait, je suis né à Paris et, en fait, je suis resté 2 ans là-bas. Et au bout de 2 ans, en fait, mon père est revenu en fait dans la vallée de Chamonix, enfin exactement au Fayet Saint-Gervais, et il a repris en fait l'entreprise de bâtiment de son père. Donc toute ma famille est venue là, et je suis resté donc à peu près de mes 2 ans à mes 18 ans en fait dans cette vallée. Et ensuite, je suis parti en fait sur Grenoble faire mes études. Et à la fin de mes études, je suis revenu en fait pour ouvrir une affaire familiale en fait au Fayet, et en fait jusqu'en 1998 environ.
Je suis un peu inquiet parce que pour le moment ça n'a aucun rapport avec ce que tu fais aujourd'hui, enfin ce que tu
non, non, non
mais... mais c'est intéressant de voir le parcours parce que je suis sûr qu'il y a dû y avoir des trucs astuces que tu as dû découvrir durant ces expériences.
Exactement. Et en fin de compte, moi, je voulais depuis longtemps suivre le chemin de mes grands-parents, en fait, qui étaient antiquaires dans la région de Saint-Tropez. Et dès l'âge de 28 ans, en fait, voilà, j'ai arrêté en fait l'activité que je faisais familiale et j'ai ouvert mon premier magasin en fait d'antiquités en fait à Annecy, antiquité brocante, très gros magasin en fait avec énormément de stock. Et donc ça, je l'ai ouvert en 98 à peu près. Et j'ai toujours en fait voulu créer des choses. Pour parler des premières créations, en fait, à 16 ans, j'ai créé en fait le premier snowboard qui est arrivé sur les pistes de ski en France, dans la vallée justement de Saint-Gervais-Megève, sur les pistes de Saint-Gervais-Megève. Il y avait d'autres garçons de mon âge qui fabriquaient en fait des snowboards dans d'autres stations, mais en tous les cas, dans cette station-là, en fait, j'étais le premier en fait à fabriquer ça. Et je l'ai fabriqué avec mon frère dans le grenier en fait de chez mon père. Et quand je surfais en fait sur les pistes de ski, alors que c'était pas du tout connu en France, c'était sorti en 1977 aux États-Unis avec Burton. La France ne connaissait pas du tout ça. Et quand j'étais sur les pistes, c'est vrai que on me regardait un peu bizarrement et on me disait que le surf c'était sur l'eau et pas sur la neige. Voilà les réflexions que j'avais. Donc j'ai fabriqué plusieurs surfs en fait que j'ai passé à des amis en fait du lycée et on allait surfer en fait sur les pistes de Saint-Gervais, Megève et d'autres allaient sur Chamonix. Donc ça c'était ma toute première création. D'ailleurs c'était bizarre parce que quand j'ai fabriqué ce premier snowboard, je pensais qu'effectivement il fallait être comme dans l'eau en fait, il fallait mettre une dérive pour aller tout droit. Donc j'ai mis une dérive et quand je suis arrivé sur la piste en fait ça freinait. Donc je suis descendu au télécabine, j'ai enlevé cette dérive et après j'ai pu surfer en fait sur les pistes.
Voilà. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, c'était il n'y a même pas 23 ans quoi.
Ah non, il y a plus que ça. Il y a...
J'ai entendu 98.
Non, ça c'était en 83.
Ah,
En
83,
83.
c'est un peu plus, c'est un peu, d'accord.
Oui. Non, je suis revenu en arrière en fait. Dans mon...
D'accord.
je suis revenu en arrière. Effectivement, pour te parler de ma première création, voilà, c'était en 83.
D'accord.
Alors que le snowboard c'était créé en 77, même un petit peu avant. Mais en France, ça n'existait pas du tout. Donc,
Alors, y a un
voilà.
truc, ouais, y a un truc que je saisis pas. Logiquement, quand on est de 2 à 18 ans dans une station de ski, en plus pas loin de Chamonix, on est censé être champion olympique.
Bon, c'est-à-dire que je faisais plusieurs sports. C'est vrai que j'étais dans l'équipe de hockey sur glace de Saint-Gervais. À l'époque, je passais plus de temps au hockey sur glace, au ski. Et, bon, le surf, c'était un peu comme ça de temps en temps, mais j'avais d'autres activités en fait. Donc, non, j'ai passé mon temps en fait plutôt sur la glace et puis ouais, sur la neige avec des compétitions de ski ou de hockey sur glace.
D'accord.
Donc ça, c'était en 83. Après, c'est vrai que donc pour revenir à 98, là donc où j'ai ouvert mon premier magasin, qui marchait très fort, et en 2001, en fait, il y a eu l'effondrement des tours, hein, comme tout le monde le sait. Et là, j'ai très vite compris en fait que le marché de l'antiquité donc allait un peu chuter, et un peu beaucoup même en fait, parce que c'était les Américains en fait qui achetaient beaucoup d'antiquités à l'époque. Et j'ai toujours voulu créer, et c'est là que j'ai commencé mes premières créations en métal, voilà, pour un grand décorateur parisien. Et j'étais le premier en France, si tu veux, à refaire des meubles en métal dans le goût du 18e siècle et 19e siècle, des commodes Louis XV, des consoles style Louis XVI, des tables Empire, etc., mais tout en acier, certaines avec des plateaux en marbre dessus choisis. Et voilà, j'ai commencé mes toutes premières créations il y a 20 ans, en fait, pile. En fait.
D'accord.
Ensuite, quelques 3 ans à peu près, après, j'ai commencé la sculpture. Évidemment, je voulais pas faire de sculpture comme tout le monde. Donc, j'étais le premier, si tu veux, à faire des sculptures à effet d'optique. C'est-à-dire que la sculpture est abstraite, en fait, quand tu tournes autour. Et quand tu t'éloignes, il y a une chose figurative qui apparaît au centre de la sculpture.
Je vois le type de sculpture. D'accord. OK.
Mais en fait, ce figuratif n'existe pas dans la sculpture. Tu peux pas le toucher, tu peux pas le mesurer. En fait, tu peux simplement le voir quand tu es loin de la sculpture, et dès que tu te rapproches, en fait, il disparaît à l'intérieur.
J'ai bien compris.
Et voilà. J'avais appelé cette sculpture la cinquième dimension parce que, comme son nom l'indique, tu peux ni le toucher ni le mesurer. Et il y a un exemplaire à Annecy, au bord du lac d'Annecy, Valpoix-Plage. Il y en a aussi d'autres vers Verrier du Lac, Mont-Saint-Bernard. Voilà, il y en a quelques-unes qu'on peut voir à l'extérieur.
Comment tu peux expliquer ce côté créatif? C'est la rencontre, le déclic, c'est t'es arrivé, t'as visité quelque chose et puis t'es tombé en extase dessus? Ou comme ça?
Non, je ne sais pas. Je pense que
Tu
je
t'es
ne sais pas d'où
réveillé un
ça vient,
matin,
en
tu t'es dit,
fait.
tiens, je vais faire ça. Voilà.
Des idées, en fait, j'en ai beaucoup tous les jours. Et en fait, voilà, je fais celles qui me plaisent. En fait, je fais par passion et par envie. En fait, je ne me force pas. Et voilà, je vais me faire plaisir aux gens dans le monde d'art. Voilà, je fais beaucoup pour les autres.
D'accord, ok. Dis-moi, en général, quand tu as un projet, tu essaies d'avoir une trajectoire bien précise, tu sais où est-ce que tu vois, tu sais comment tu fais?
Alors, en général, quand j'ai une idée qui arrive, en fait, je la dessine sur un petit bout de papier. Ou à l'endroit où je suis, en fait, ça peut être n'importe où, chez moi, ou dehors, ou au restaurant, n'importe où. Je la dessine sur un petit bout de papier, je plie ce papier que je garde sur moi, et en fait, je réfléchis à cette œuvre, que ce soit une sculpture, ou un meuble, ou un objet, peu importe, en fait, et je la construis dans ma tête. Je la construis de A à Z jusqu'à la moindre rondelle, le moindre boulon, tout au millimètre, en fait, même au dixième de millimètre. Et ensuite, une fois qu'elle est créée dans ma tête, en fait, je la dessine à l'ordinateur en 3D, et je fais ma mise en plan. Et une fois que ma mise en plan en fait est faite, je passe à l'exécution, la découpe du métal et l'assemblage.
D'accord.
Voilà.
Donc ça veut dire que c'est une démarche qui est très carrée, très cartésienne, très posée.
Oui, il y a beaucoup de mathématiques en fait dans mes créations,
D'accord.
beaucoup de calculs. Et en fait, il y a les deux côtés. Il y a le côté artiste et le côté très carré. Voilà, il y a les deux côtés.
D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir trop préparé, ou faut laisser parfois de la place à la chance ou au destin?
Bah, des fois, je me trompe même en fait dans mes dessins, enfin, ça m'arrive. Et en fait, c'est encore mieux. En fait, le résultat est mieux. Mais ça, je le vois à l'ordinateur en fait quand je dessine. Parce que, en fait, je ne mets pas de mesure quand je dessine. En fait, je dessine tout à l'œil et ensuite, je mets la mesure. Et admettons, quand une cote arrive à 98,5, eh bien, dans ma tête, eh bien, à l'œil, en fait, ben, je mets 100, en fait, pour que les proportions soient idéales. Voilà. Mais il n'y a pas de prise de mesure avant, en fait. C'est tout à l'œil.
D'accord, ok. Alors, j'ai peut-être expliqué pourquoi je t'ai posé des questions, parce que bon, il y a des gens qui entendent, qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Alain et tout? Et même toi, bon, t'as pas encore vu. Je lis simplement ce qui a marqué. L'utilisation de cet objet, je ne vais pas dire encore ce que c'est, rend imprévisible la trajectoire pour arriver au plus près. L'association de l'adresse et de la chance permet de gagner la partie. Non mais dis-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait les gens là? Donc d'un côté, toi, tu prends un cartésien dit prends un carré, et de l'autre côté, tu sors un truc qui est carrément imprévisible, qui où la variable chance rentre. Mais je comprends pas, là, il y a un truc qui cloche.
Alors là, tu veux parler de ma dernière création,
Ah non, franchement, pas du
en
tout. Non,
fait.
non, je dis ça au hasard. Non, jamais je me permettrais. C'est quoi ta dernière création?
Alors, je crois que je suis venu pour parler de ça, en fait. Je suis venu pour parler de fait. J'ai créé, en fait, la première boule de pétanque asymétrique au monde. La boule de
La
pétanque, en
première.
fait.
Attends, 2 secondes, 2 secondes. La première boule de pétanque asymétrique. D'accord.
Oui.
Une boule, c'est
C'est-à-dire que.
rhombe. Une boule,
Ouais.
quand
Non,
on dit boule,
alors.
c'est rond.
Oui, mais celle-ci, elle n'est pas ronde, en fait. Elle
Tu sais,
est.
Galilée, quand il a dit que la Terre était ronde, il a eu des
Je
problèmes.
sais.
Tu vas avoir des problèmes, toi. Hein? Vas-y.
Non, mais en fait, elle n'est pas ronde. Le centre est rond, mais en fait, il y a trois bosses dessus. Il y en a une moyenne, une grosse et une petite. Et en fait, elles sont décalées. Ce qui fait que, en fait, quand tu joues avec cette boule de pétanque, donc la boule va tout droit vers le cochonnet. Et dès qu'elle perd de l'inertie, dès qu'elle arrive vers le cochonnet, elle change de direction toute seule. Elle va à droite ou elle va à gauche, ou elle peut tourner derrière le cochonnet et revenir dessus. En fait, elle fait comme elle veut. C'est-à-dire que au pointage, tu ne peux pas savoir exactement en fait où elle va arriver. Donc en fait, ça remet à niveau tout le monde. C'est-à-dire qu'un joueur de pétanque confirmé peut se faire battre par un joueur de pétanque débutant. Voilà.
Dis-moi,
Par contre, oh.
est-ce que tu
Par
as
contre.
créé le MLBP?
Le MLBP, dis-moi.
Le mouvement de libération de la boule de pétanque.
Non, je l'ai pas créé.
Si.
Je ne l'ai pas créé.
Non,
C'est
je.
simplement, en fait, c'est une pétanque qui est, voilà, qui rend la partie beaucoup plus rigolote, en fait. Je dis pas que
Tu
c'est
lances ta
plus
boule,
rigolo
hop,
que.
elle arrive juste à côté du cochonnet, au lieu d'aller directement sur le cochonnet, elle va à gauche ou à droite. Oui, c'est oui. J'ai
Voilà,
résumé
elle
à peu
va où
près
elle
comme
veut.
ça, hein.
En fait, elle a une forme libre, c'est ce qu'on appelle en design, en fait, une forme libre que Charlotte Perriand, en fait, avait étudiée. Et la forme libre, en fait, permet effectivement d'avoir une chance, une part de hasard, en fait, qui arrive dans la partie, enfin, dans la trajectoire de la boule. Voilà. Par contre, au tir, quand on fait le tir, on peut faire des carreaux. En fait, ça reste une boule de pétanque, une vraie boule de pétanque. Donc, on peut faire exactement la même chose qu'avec une boule de pétanque. Sauf qu'au pointage, en fait, ça devient plus aléatoire. Et donc plus rigolo en fait.
Oui. J'ai le droit de te demander d'où vient l'idée? Si un jour tu jouais à la pétanque, tu t'es pris une boule sur la tête, tu dis, ah tiens, j'ai trouvé
Non,
une idée géniale. Excuse-moi,
c'est
je
pas tout à
résume.
fait ça en fait. Non, j'étais en vacances dans le Midi en fait. Et quand je vais en vacances, en général, je fais aussi quelques musées. Et là, en fait, j'avais fait quelques musées, la Fondation d'art contemporain, le musée du Mucem à Marseille. Enfin, j'étais vraiment dans la région du Midi. Et je voyais en fait toutes les personnes jouer de chaque côté des places en fait à la pétanque. Et en fait, dans cette journée, j'ai associé l'art et la pétanque. J'ai fusionné les deux univers et ça a donné en fait naissance à la molette. En fait, c'est la boule de pétanque que j'ai créée s'appelle la molette, comme si elle était molle. Alors, parce que d'apparence, en fait, on croit qu'elle est molle, mais elle est dure comme une boule de pétanque normale.
Bah oui, parce qu'elle s'appelle comment déjà ta boule de pétanque?
Elle s'appelle la molette,
Ouais.
avec deux L.
Mais la molette, je pense, c'est une clé, non?
Non, ben oui, c'est une clé, mais ça ne s'écrit pas comme ça. Et puis ça fait penser aussi à la triplette, à la doublette. Et en fait, donc quand j'ai eu cette idée, ce que j'ai fait, je suis revenu à Annecy, je suis allé au marché d'Annecy, et en fait, j'ai choisi sur le marché une betterave avec la forme exacte que j'avais dans la tête de la boule. Une betterave rouge, exactement. de la forme et de la taille. Et j'ai congelé en fait cette betterave rouge et j'ai joué avec et elle avait exactement la trajectoire en fait que je voulais dans ma tête. Et à partir de cette betterave, j'ai fait un dessin 3D, comme je dessine mes autres créations, que ce soit les sculptures, les meubles ou les objets, avec toutes les caractéristiques techniques en fait des boules de pétanque au niveau épaisseur, au niveau poids, au niveau dureté du métal. Voilà, j'avais pris toutes ces caractéristiques. Et je les ai réunis dans la molette. Voilà, et j'ai créé la molette. Après, j'ai fait un premier prototype qui était un peu lourd, qui faisait 820 grammes à peu près.
Oh mon Dieu.
Voilà, parce qu'une boule de pétanque, c'est un peu plus léger. Ça dépend, en fait, parce que les boules lyonnaises font entre 800 et 1 kilo et quelques. Et je voulais être au milieu. Et en fait, je me suis aperçu que pour les enfants, c'était un peu lourd. Donc, j'ai refait un deuxième prototype plus léger, qui faisait à peu près 60, qui faisait 670 grammes. Et ensuite, je suis passé à la production, et à la production, on a allégé encore pour que l'inertie soit encore plus juste. Et donc, on est tombé à 620 grammes. Voilà.
D'accord.
Et donc, maintenant, elle va parfaitement bien.
D'accord. Alors, si j'ai bien compris, on peut même faire de la musique avec ta molette.
Ah ben, que tu veux dire quand on les frappe l'une à l'autre?
Non, c'est par exemple, il y a la demi-portée. On sait qu'en musique, il y a de la portée, mais là, il y a une demi-portée
Ouais,
chez toi.
demi-portée, oui. Demi-portée, il y a tous les termes techniques en fait
C'est quoi la demi-portée?
Ben, c'est quand on lance la boule pour qu'elle arrive à égale distance, si tu veux, entre le joueur et le cochonnet, à peu près. C'est ça.
Ah
Après, tu as
d'accord.
d'autres termes. Tu as la plombée, tu as le tir au fer, tu as le tir à la rafle. Mais bon, je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y a les mêmes en fait, termes techniques en fait, que la pétanque. La seule différence pour la molette, en fait, c'est que la partie se joue en 11 points au lieu de 13 et qu'elle se joue entre 6 et 9 mètres au lieu de 6 et 10 mètres. Voilà, c'est les deux seules variantes.
Et la famille, ça
Autrement,
existe chez toi?
ça existe. Et ce
Voilà.
qu'il y a d'un peu fou avec ce jeu, en fait, quand on a essayé, c'est que la chance, en fait, n'est pas toujours sur la même personne. Parce que le slogan de la molette, c'est que la chance gagne. Mais en fait, la chance, dans les parties, elle peut tourner. Parce que la molette est faite sur trois parties. Partie, revanche et belle. Et en fait, c'est pas la même personne qui a la même chance à chaque fois. En fait, la chance tourne entre les joueurs. Donc, ça rééquilibre vraiment tout.
Enfin bon, la chance, je pense qu'on l'a aussi avec les boules de pétanque normales rondes, alors que là, c'est. Ah ouais, non, mais c'est
Non,
original.
les boules de pétanque ronde, c'est si t'es bon, tu gagnes. Je veux dire, il n'y a pas de chance.
Ouais,
Je
bah
veux
je te
dire,
remercie, c'est gentil. Alors là, j'apprécie ton. Là, alors là, je revendique, je dois pas être aussi bon que ça, alors tout compte fait, peut-être. elles sont. C'est un moule, comment ça se passe? Elles sont fabriquées comment?
Alors, on a fait avec les fabricants, on a essayé plusieurs méthodes différentes. On a cassé 4 à 5 moules. Il faut savoir qu'une boule de pétanque déjà classique ronde, c'est déjà très compliqué à fabriquer.
Oui.
En demi-coquille, en fait, c'est deux demi-coquilles en fait
Ouais, c'est ça.
qui sont re-ressoudées, c'est vide à l'intérieur. Ensuite, c'est passé autour. Tandis que la molette, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle n'est pas ronde, donc on peut pas la passer autour. Donc effectivement, c'est des coquilles. Je ne vais pas dévoiler les secrets techniques
Non,
parce
non, non.
il m'a fallu 2 ans et demi en fait pour mettre au point la boule de pétanque. Mais effectivement, on a essayé toutes les formules d'emboutissage, de moulage, on a tout essayé. Voilà.
D'accord.
Et au final, on a trouvé.
D'accord. La molette, c'est pour les hommes, pour les femmes, c'est pour les enfants?
Pour tout le monde. Pour tout le monde. Vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Et tous les gens qui les ont essayés, que ce soit des enfants de même 7-8 ans jusqu'à 80 ans, en général, ça plaît beaucoup. Voilà. Parce que c'est la partie vraiment rigolote. Très rigolote.
D'accord. Ça, c'est vraiment ta création actuelle. C'est ce qui te permet de te faire connaître d'une manière conséquente. Il y a d'autres choses un peu insolites, originales comme ça?
Ben c'est déjà pas mal.
Non, oui, non,
Je
non,
suis
mais.
sur d'autres projets, mais celui-ci m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Évidemment, oui, je suis sur d'autres projets en même temps, mais je ne peux pas en parler là, c'est un peu confidentiel.
Ah, mais
Mais la sortie.
c'est très très bien la réponse que tu donnes parce que ça montre qu'il y a une évolution possible. Est-ce que on verra, ça sera en démonstration à Tokyo? Pas du tout. Parce
Alors,
que
non, pas à
l'objectif, c'est Paris
Tokyo. On va
2024.
déjà. Voilà, ça vient de sortir en fait. Le 1er juin a été le lancement officiel. Donc, la molette est vendue essentiellement sur Internet, sur le site de la molette. Il y a aussi un fourgon vintage en fait que j'ai préparé en fait et siglé au nom de la Molette qui va passer dans les villes, enfin au marché d'Annecy essentiellement et peut-être dans les villages. Voilà, il y a deux points de vente aujourd'hui pour la
D'accord.
Molette.
Non, mais je veux dire, est-ce que ça va être sport olympique pour Tokyo dans un mois ou est-ce que c'est prévu pour Paris 2024? Est-ce qu'il y a un
Non,
champion
c'est
du
trop tôt pour
monde et un champion de
l'instant.
France? Comment ça se passe?
Non, non, pour l'instant c'est trop tôt. Il y a un tournoi en ce moment en Espagne, effectivement, qui se passe. Où la Molette est présentée en ce moment. Bah, je crois que c'est aujourd'hui, d'ailleurs, le lancement. Et l'organisateur a adoré la Molette, donc il la présente là-bas. Donc, on est vraiment au début de la commercialisation. Donc, ça, je pourrais te le dire d'ici 2 ans, peut-être, mais pour l'instant, le but est de faire connaître la Molette.
Oh, chouette, ça veut dire que dans 2 ans, on sera toujours en contact ensemble. Génial. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai oublié. Ton rêve, ça serait quoi?
Bah, des rêves, j'en ai plein. Si je rêve pas, moi, je crée pas. Donc,
Oui, mais par exemple, par rapport à la molette, est-ce que tu as un rêve? Est-ce que...
ah, par rapport à la Molette, le rêve, je sais pas si c'est un rêve, mais ce serait cool que ça devienne le jeu numéro un des Français de l'été, quoi, à l'extérieur, d'ici quelques années. Bon, d'ici
D'accord.
2, 3 ans. En tout cas, tous ceux qui l'ont essayé, qui l'ont testé, qui l'ont acheté, voilà, adorent et en parlent à beaucoup de monde et voilà, c'est bien parti.
D'accord, ok. Comment est-ce qu'on fait si on veut découvrir la molette, si on veut, pourquoi pas, faire un cadeau, ou si on veut se faire plaisir et l'acheter?
Mais il faut simplement se rendre sur le site La Molette, en fait, www.la-molette.com, et autrement sur le marché d'Annecy, peut-être pas chaque semaine, mais en tous les cas, il sera sur le marché d'Annecy avec le fourgon vintage, se voit de très loin, il est très reconnaissable.
D'accord.
C'est un
Est-ce
vieux
que tu...
Peugeot des années 60.
Ouais. Est-ce que tu peux rendre un service? Parce que c'est toujours important entre ce qu'on dit et ce qu'on écrit, c'est parfois pas la même chose. Est-ce que tu peux juste m'épeler Molette, s'il te plaît?
Molette, oui, bien sûr, je peux décrire. C'est MOLLETE.
Ouais, c'est pas MOLE. Il y a bien 2 L et 2 T, c'est
Il y a bien
important.
deux L. Voilà, il faut bien mettre ça parce que si. Ou on peut mettre la molette pétanque sur Internet et on la trouve.
D'accord. Bon, bah écoute, que te dire de plus? Bah, te remercier d'avoir pris ces quelques minutes.
Ben, c'est moi qui te remercie alors.
C'est vrai que tu as l'intention de faire des quilles triangulaires aussi? Non? Au point où on en est non, bah, tu sais, tu peux révolutionner le bowling aussi si tu veux.
Je peux te créer ce que tu veux. Là, je suis en train de créer. Enfin, bon, je peux pas t'en parler maintenant, mais je suis effectivement en train de créer d'autres choses dans le sport
D'accord.
et dans le mobilier aussi, mais tout nouveau, vraiment nouveau.
Ok.
Je t'en parlerai dans une autre émission.
Et moi, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet parce que je suis devant. Et je veux dire que les photos sont aussi tout à fait adaptées par rapport à cette
Ouais.
boule de pétanque un peu insolite, originale et qui sort de l'ordinaire. En tout cas, merci à
Bah,
toi. Je te souhaite. Oui.
l'image que tu vois en noir et blanc, en fait, c'est une carte postale que j'ai conservée, en fait, qui est de 1915, en fait, où on voit les deux joueurs en train de jouer. Et je te remercie également, Alain, je te remercie. Et puis, au plaisir de te retrouver.
Avec plaisir. Merci à toi. Bonne journée.
Merci. Bonne journée.